Bonjour à tous, bienvenue dans Contact, l'émission qui vous plonge dans les mots d'un auteur tous les mercredis à 22h30. Pendant une demi-heure, c'est lecture sur Canal B. Vous avez bien entendu, c'est lecture. Pas question de parler de littérature. Ici, on va lire des livres, tourner des pages. Bref, on va vibrer au rythme des belles formules. Pour vous conduire dans cette expédition littéraire hebdomadaire, un lecteur modeste, votre serviteur du soir, Edgar, pour vos beaux yeux, chers auditeurs. Dans cette nouvelle émission, je vous invite à me suivre dans les pas de Stefan Zweig. De son œuvre dense et multiple, j'ai sélectionné un texte court qui fut un grand succès de librairie lors de sa parution en 1927, 24 heures de la vie d'une femme. De ce roman, l'écrivain autrichien raconte la passion brutale qui s'est emparée d'une femme âgée, une aristocrate anglaise, bouleversant à jamais sa vie. Des années plus tard, dans un hôtel de la Côte d'Azur, elle choisit de raconter son histoire à un autre pensionnaire qui l'écoute alors patiemment délivrer pour la première fois son lourd secret. Stefan Zweig décrit dans ce roman avec précision les tourments émotionnels de ses personnages. Des tourments qui ont déchiré l'auteur juif autrichien tout au long de sa vie, témoin des grandes catastrophes du XXe siècle, depuis la Première Guerre mondiale qu'il traverse en tant qu'archiviste, jusqu'à la montée du nazisme. Chassé de son pays à cette époque, il s'exile en Grande-Bretagne puis au Brésil. En février 1942, il envoie à son éditeur son dernier ouvrage, Le Monde d'hier, puis il se donne la mort avec son épouse en laissant ses derniers mots. Le monde de mon langage a disparu pour moi et ma patrie spirituelle, l'Europe, s'est détruite elle-même. Je salue tous mes amis. Puissent-ils voir encore l'aurore après la longue nuit ? Moi, je suis trop impatient, je pars avant eux. Pour notre lecture du jour, je commence page 45. L'aristocrate anglaise raconte à notre jeune narrateur sa rencontre avec celui qui bouleversera son existence, ou plutôt les mains de celui-ci. Bonne écoute à tous. Donc ce soir-là, étant entré au casino, après être passé devant deux tables plus qu'encombrées et m'être approché d'une troisième, au moment où je me préparais déjà quelques instants de pause entièrement muette, pleine de tension et dans laquelle le silence semble vibrer, qui se produit toujours lorsque la boule, déjà presque à bout de course, n'oscille plus qu'entre deux numéros, j'entendis donc juste en face de moi un bruit très singulier. Un craquement et un claquement, comme provenant d'articulations qui se brisent. Malgré moi, je regardais étonné de l'autre côté du tapis et je vis là, vraiment j'en fus effrayé, deux mains comme je n'en avais encore jamais vu. Une main droite et une main gauche qui étaient accrochées l'une à l'autre comme des animaux en train de se mordre et qui s'affrontaient d'une manière si farouche et si convulsive que les articulations des phalanges craquaient avec le bruit sec d'une noix que l'on casse. C'étaient des mains d'une beauté très rare, extraordinairement longues, extraordinairement minces, et pourtant traversées de muscles très rigides, des mains très blanches, avec, au bout, des ongles pâles, nacrés et délicatement arrondis. Eh bien, je les ai regardées toute la soirée. Oui, regardées avec une surprise toujours renouvelée, ces mains extraordinaires, vraiment uniques. Mais ce qui d'abord me surprit d'une manière si terrifiante, c'était leur fièvre. leur expression follement passionnée, cette façon convulsive de s'étreindre et de lutter entre elles. Ici, je le compris tout de suite, c'était un homme débordant de force qui concentrait toute sa passion dans les extrémités de ses doigts pour qu'elle ne fît pas exploser son être tout entier. Et maintenant, à la seconde où la boule tomba dans le trou avec un bruit sec et mat, et où le croupier cria le numéro, à cette seconde, les deux mains se séparèrent soudain l'une de l'autre comme deux animaux frappés à mort par une même balle. Elles retombèrent toutes les deux, véritablement mortes et non pas seulement épuisées, elles retombèrent avec une expression si accusée d'abattement et de désillusion, comme foudroyées et à bout de course que mes paroles sont impuissantes à le décrire. Car jamais auparavant, et jamais depuis lors, je n'ai vu des mains si éloquentes, où chaque muscle était comme une bouche et où la passion s'exprimait tangible presque par tous les pores. Pendant un moment, elles restèrent étendues toutes les deux sur le tapis vert, telles des méduses échouées sur le rivage, aplaties et mortes. Puis, l'une d'elles, la droite, se mit péniblement à relever la pointe de ses doigts. Elle trembla, elle se replia, tourna sur elle-même, hésita, décrivit un cercle et finalement saisit avec nervosité un jeton qu'elle fit rouler d'un air perplexe entre l'extrémité du pouce et celle de l'index, comme une petite roue. Et soudain, cette main s'arqua comme une panthère faisant le gros dos, et elle lança, ou plutôt elle cracha presque le jeton de 100 francs qu'elle tenait au milieu du carreau noir. Tout de suite, comme sur un signal, l'agitation s'empara aussi de la main gauche qui était restée inerte. Elle se réveilla, glissa, rampa même, pour ainsi dire, vers sa sœur toute tremblante que son geste tremblait, que son geste semblait avoir fatigué, et toutes deux étaient maintenant frémissantes l'une à côté de l'autre, toutes deux pareilles à des dents qui dans le frisson de la fièvre claquent légèrement l'une contre l'autre, tapotaient la table sans bruit de leurs jointures. Non, jamais, jamais encore je n'avais vu des mains ayant une expression si extraordinairement parlante, une forme d'agitation et de tension si spasmodique. Sous cette grande voûte, tout le reste, le murmure qui remplissait les salons, les cris bruyants des croupiers, le va-et-vient des gens et celui de la boule elle-même, qui maintenant, lancée de haut, bondissait comme une possédée dans la cage ronde au parquet luisant, toute cette multiplicité d'impressions s'enchevêtrant et se succédant pêle-mêle et obsédant les nerfs avec violence, tout cela me paraissait brusquement mort et immobile à côté de ses mains frémissantes, haletantes, comme essoufflées, en attente, grelottantes et frissonnantes, à côté de ses mains inouïes qui me fascinaient quasiment et accaparaient toute mon attention. De retour dans Contact, l'émission qui vous plonge dans les mots d'un auteur, tous les mercredis à 22h30 sur Canal B, 94 MHz. Vous venez d'écouter Francisco Terraga dans un arrangement à la guitare de Frédéric Chopin. Chers auditeurs, je vous invite à poursuivre la lecture de 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig. Je ne puis y résister davantage. Il me fallait voir l'homme, voir la figure à qui appartenaient ses mains magiques, et anxieusement, oui, avec une anxiété véritable car ses mains me faisaient peur, mon regard glissa lentement le long des manches et jusqu'aux épaules étroites. Et de nouveau, j'eus un sursaut de frayeur, car cette figure parlait la même langue effrénée et fantastique surexcitée que les mains. Elle en avait à la fois la même expression d'acharnement terrible et la même beauté délicate et presque féminine. Jamais je n'avais vu un tel visage, pour ainsi dire collé sur la personne et séparé presque de celle-ci, pour vivre d'une vie propre, pour se laisser aller à l'exacerbation la plus complète, et j'avais là une excellente occasion de l'examiner à loisir, comme un masque, comme une sorte d'œuvre plastique sans regard. Cet œil dément ne se tournait ni à droite ni à gauche, ne fût-ce que pour une seconde. La pupille, rigide et noire, était comme une boule de verre sans vie, sous les paupières écarquillées, reflet miroitant de cette autre boule couleur d'acajou qui roulait, qui bondissait follement et insolemment dans la petite cuvette ronde de la roulette. Jamais, il faut que je le répète encore, je n'avais vu un visage si exalté et si fascinant. C'était celui d'un jeune homme d'environ 24 ans. Il était mince, délicat, un peu allongé et par là si expressif. Tout comme les mains, il n'avait rien de viril, semblant plutôt appartenir à un enfant jouant avec passion, mais je ne remarquai tout cela que plus tard, car pour l'instant ce visage disparaissait complètement sous une expression frappante d'avidité et de fureur. La bouche mince, ouverte et brûlante, découvrait à moitié les dents à une distance de 10 pas. On pouvait les voir s'entrechoquer fiévreusement, tandis que les lèvres restaient figées et écartées. Une mèche de cheveux mouillés, d'un blond lumineux, était collée au front. Elle tombait sur le devant comme quelqu'un qui venait de faire une chute, et un tremblement interrompu frémissait tout autour des narines, comme si de petites vagues invisibles ondulaient sous la peau. Et cette tête, toute penchée en avant, s'inclinait inconsciemment de plus en plus vers l'avant, si bien qu'on avait le sentiment qu'elle était entraînée dans la tourbillon de la petite boule. C'est alors seulement que je compris la crispation convulsive de ses mains. Par cette seule contre-pression, par cette seule contraction, le corps arraché à son centre de gravité se tenait encore en équilibre. Jamais encore, il faut sans cesse que je le répète, je n'avais vu un visage d'où la passion jaillissait tellement à découvert, si bestiale, dans sa nudité effrontée, et j'étais tout entière à le regarder, ce visage, aussi fasciné, aussi hypnotisé par sa folie que ses regards, l'étaient par le bondissement et le tressautement de la boule en rotation. À partir de cette seconde, je ne remarquais plus rien dans la salle. Tout me paraissait sans éclat, terne et effacé. Tout me semblait obscur en comparaison du feu jaillissant de ce visage. Et sans faire attention à personne d'autre, j'observais peut-être pendant une heure ce seul homme et chacun de ses gestes. Une lumière brutale étincela dans ses yeux. La pelote convulsée de ses mains fut brusquement déchirée comme par une explosion, et les doigts s'écartèrent violemment, en frémissant, lorsque le croupier poussa vers leur avide étreinte 20 pièces d'or.
What am I gonna do on Sundays? You'd throw the curtain wide, and I wouldn't mind a sky of only clouds, sheltering in that subway. We prop a painful love and see how long we make a tenor last. I'm gonna miss you, having something to say about everyone. Ruining my joke, coming up with a better one. Leading all this might be easier said than done. It's a fight that you should have won. You can't. From hell, who's gonna talk me down? I'll mostly miss the boring, the walk from your house to that cafe you're always on about. Too bad, couldn't see what you had in front of you. I did what I had to do. You can't.
De retour dans Contact, vous êtes toujours sur Canal B et vous faites bien. Vous venez d'écouter What I'm Gonna Do on Sundays de la chanteuse britannique Olivia Dean. C'est parti pour la troisième et dernière lecture du jour. Alors arriva un moment terrible. Un moment qu'en moi-même j'avais redouté déjà sourdement pendant tout ce temps. Un moment qui était suspendu comme un orage au-dessus de mes nerfs tendus et qui, soudain, les fit se rompre. De nouveau, la boule s'était amortie avec de petits bruits de claquets dans sa ronde carrière. De nouveau palpita cette seconde pendant laquelle 200 lèvres retinrent leur souffle jusqu'à ce que la voix du croupier annonça, cette fois-ci, zéro. Tandis que déjà son râteau presque ramassait de tous les côtés les pièces sonores et le cri sans papier. À ce moment-là, les deux mains contractées firent un mouvement particulièrement effrayant. Elles bondirent comme pour saisir quelque chose qui n'était pas là. Puis elles s'abattirent, presque agonisantes sur la table, n'étant plus qu'une masse inerte. Mais ensuite elles repartirent soudainement, Encore une fois, elles coururent fiévreusement de la table au corps dont elles faisaient partie, grimpèrent comme des chats sauvages le long du tronc, fouillant nerveusement dans toutes les poches, en haut, en bas, à droite, à gauche, pour voir s'il n'y aurait pas encore quelque part, comme une dernière miette, une pièce de monnaie oubliée. Mais toujours elle revenait vide, toujours elle revenait plus ardemment, toujours elle renouvelait plus ardemment cette recherche vaine et inutile. Tandis que déjà le plateau de la roulette s'était remis à tourner, que le jeu des autres continuait, que les pièces de monnaie tintaient, que les sièges remuaient et que les mille petits bruits confus remplissaient la salle de leurs rumeurs. Je tremblais, toute secouée d'horreur. Tellement je participais malgré moi à tous ces sentiments, comme si c'était mes propres doigts qui, là, fouillaient désespérément à la recherche de n'importe quelle pièce d'argent dans les poches et les plis du vêtement tout chiffonné. Et soudain, d'une brusque saccade, l'homme se leva en face de moi comme quelqu'un qui se trouve subitement mal et qui se dresse pour ne pas étouffer. Derrière lui, la chaise roula au sol avec un bruit sec. Mais sans même le remarquer, sans faire attention aux voisins qui, étonnés et inquiets, s'écartaient de cet homme chancelant, il s'éloigna de la pâle de la table d'un pas lourd. À cet aspect, je fus comme pétrifié. Car je compris aussitôt où allait cet homme, à la mort. Quelqu'un qui se levait de cette façon ne retourne certainement pas dans un hôtel, dans un cabaret chez une femme, dans un compartiment de chemin de fer, dans n'importe quelle situation de la vie, mais il se précipitait tout droit dans le néant. Même la personne la plus insensible de cette salle d'enfer aurait reconnu forcément que cet individu n'avait plus aucun appui, ni chez lui, ni dans une banque, ni chez des parents, qu'il avait joué ici son dernier argent et sa vie même, et que maintenant, de ce pas trébuchant, il s'en allait ailleurs, n'importe où, mais à coup sûr hors de l'existence. J'avais toujours craint, et dès le premier moment je l'avais magiquement senti, qu'ici ne fût en jeu quelque chose de supérieur au gain et à la perte, et cependant ce fut comme un noir coup de foudre qui éclata en moi lorsque je constatai que la vie quittait brusquement les yeux de cet homme et que la mort mettait son teint livide sur ce visage encore débordant d'énergie l'instant d'avant. Malgré moi, tellement j'étais sous l'emprise de ses gestes expressifs, je dus me cramponner avec la main pendant que cet homme se levait avec peine de sa place et chancelait, car sa démarche titubante passait maintenant dans mon propre corps, comme auparavant son excitation était entrée dans mes veines et dans mes nerfs. Mais ensuite, ce fut plus fort que moi, quelque chose m'entraîna, sans que je l'aie voulu, mon pied se mit en mouvement. Cela se fit d'une manière absolument inconsciente. Ce n'était pas moi qui agissais, mais quelque chose en moi fit que, sans faire attention à personne ni sans avoir conscience de mes propres mouvements, je courus vers le vestibule pour sortir. Il était au vestiaire, l'employé lui avait apporté son pardessus. Mais ses bras ne lui obéissaient plus. Aussi, le préposé, très empressé, l'aida, comme un infirme, à passer péniblement les manches. Je le vis porter machinalement ses doigts à la poche du gilet pour donner un pourboire, mais après l'avoir tâté jusqu'au fond, il en sortit vide. Alors il parut soudain se souvenir de tout, il balbutia quelques mots embarrassés à l'employé, et tout comme précédemment, il se donna une brusque saccade en avant, puis, comme un homme ivre, il descendit en trébuchant les marches du casino, d'où l'employé le regarda encore un moment avec un sourire d'abord méprisant avant de comprendre. Cette scène était si bouleversante que j'eus honte de me trouver là. Malgré moi, je me détournais, gêné d'avoir vu, comme au balcon d'un théâtre, le désespoir d'un inconnu, mais soudain cette angoisse incompréhensible qui fit donner mon vestiaire et sans penser à rien de précis, tout machinalement, tout instinctivement, je m'élançais dans l'obscurité sur les pas de cet homme. La lecture est terminée pour aujourd'hui. Si ces quelques pages vous ont plu, 24 heures de la vie d'une femme de Stéphane Zweig est édité par la maison d'édition Livre de Poche. Merci pour votre attention. L'émission est à réécouter, comme d'habitude, en podcast. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit et bonne lecture.